Tournez-vous avec moi dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc. Nous allons lire les versets, je vais mettre mes lunettes, les versets 35 à 38. Est-ce qu'il y a une traduction ce matin, Piotr, du français au polonais? Je vais essayer d'aller plus lentement que d'habitude. Je vais essayer. 8. Et j'aimerais juste avant de lire ce passage avec vous, ce passage, vous parler de vous, de quelque chose qui se trouve en vous et qui a une valeur inestimable, voire une valeur infinie. Et je parle ici de votre âme, qui existera quelque part lorsque ce monde retournera en poussière. Cette âme. On a parlé de la conscience il y a quelques semaines. Ce matin, j'aimerais aborder l'âme, mais vu que c'est un sujet assez long, eh bien, on va le faire en deux parties. Il y aura une première partie ce matin et une autre partie dans deux semaines. Vous avez votre doigt dans l'Évangile de Marc, chapitre 8. Ça ne sera pas long, on va y arriver. Lorsque le soleil, la lune et les étoiles auront été détruits par le feu, votre âme continuera à exister éternellement. Votre âme créée à l'image de Dieu vaut plus que tous les rubis, tous les diamants, l'or et l'argent que ce monde est en mesure d'offrir. Votre corps peut mourir, il peut se dissoudre et retourner à la poussière, mais votre âme qui est liée à votre esprit ne cessera jamais d'exister, comme Dieu lui-même ne cessera jamais d'exister. Et ce, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Pour le dire autrement, vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme vivante qui vivait dans un corps. L'apôtre Paul décrit ce corps comme étant une tente. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, il décrit notre corps comme étant une tente et il fait référence à une tente qui vieillit. Et quand on voit les rides et tout ce qui apparaît sur notre corps, eh bien, c'est vrai que c'est une tente, comme une tente. À un moment donné, les vieilles tentes de l'armée, les coutures commencent à lâcher, ça commence à couler. Et c'est la même chose pour nous en vieillissant. Eh bien, on est plus fatigué, on a moins de résistance. Et aussi, on s'aperçoit, notre corps, quand on se regarde dans un miroir, nous rappelle qu'on est en train, on est dans ce processus de vieillissement qui confirme ce que la parole de Dieu dit, qu'un jour, eh bien, nous retournerons tous à la poussière. Dieu a dit quelque chose vous concernant lorsqu'il vous a créé. Qu'il n'a pas dit à personne d'autre ou à qui que ce soit d'autre, il a dit qu'il vous a créé à son image. C'est ce qui rend l'homme unique dans toute la création et c'est ce qui le distingue de toutes les autres créatures que Dieu a créées. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et le problème avec plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, c'est que nous prenons soin de notre corps, mais nous négligeons trop souvent notre âme. Supposons qu'un garçon tombe amoureux d'une jeune fille et qu'il ne sait pas vraiment comment la demander en mariage et qu'il veut connaître ses intentions. Eh bien, la première chose qu'il va faire, eh bien, c'est de lui offrir une bague de fiançailles. C'est une supposition. On n'offre pas tous des bagues de fiançailles lors d'une première rencontre, mais dans le cas de ce jeune homme, il l'aimait tellement qu'il la voyait comme étant son épouse et il s'est dit « c'est vraiment la mienne » et ainsi de suite. Alors, il part lui acheter une bague qu'il dépose dans une magnifique boîte dont l'intérieur est recouvert de velours. Il prend la boîte, il va retrouver la jeune fille, il lui offre la boîte en lui demandant de regarder à l'intérieur et de lui donner ses impressions quand elle reviendra. Et le même soir, il revient la trouver, espérant qu'elle lui donnerait une réponse favorable. « Eh bien, dit-il, que penses-tu de mon cadeau? »« Oh, dit-elle, je l'aime bien. » Et là, elle va dans le tiroir où elle avait déposé la petite boîte, elle la sort et elle dit « Regarde, tu as vu la charnière? Tu as vu comment elle s'ouvre bien, se ferme bien? Vraiment une belle boîte. Tu as vu la petite boucle à l'intérieur? Oh! Et tu as touché à l'intérieur comment c'est doux, c'est du velours. » Le jeune homme étonné lui dit, « C'est vrai, mais que penses-tu? Que penses-tu de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte? Oh, dit-elle, tu veux dire ce bout de métal recouvert d'un morceau de verre? Eh bien, je l'ai jeté. Mais je veux te remercier pour cette magnifique petite boîte de velours que tu m'as donnée. » Chers amis, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à cette jeune fille, qui ne comprennent pas que le corps, c'est la boîte et que l'âme, c'est le diamant. Nous prenons soin de la boîte, c'est-à-dire de notre corps, pour qu'il soit présentable et agréable aux yeux des gens, mais nous négligeons le diamant qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Regardons ce que le Seigneur Jésus dit à propos de notre âme, de votre âme, de la mienne, dans ce passage dans Marc chapitre 8. Lisons à partir du verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Soyez attentifs à ce que Jésus dit ici. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et nous savons que la bonne nouvelle, ça concerne la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Et que sert-il à un homme, de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura si honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus est en train de dire ici que si quelqu'un veut échanger son âme pour gagner le monde entier, il fait une très, très mauvaise affaire. Boris a prié pour moi, mais je sens le besoin de prier. On va prier. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, merci de nous avoir créés à ton image. Seigneur, merci de nous avoir créés aussi à ta ressemblance. Seigneur, merci de nous avoir donné cette bonne nouvelle, Seigneur, qui parle de la personne de Jésus-Christ, mort, crucifié pour nous, Seigneur, merci de qu'il ait accepté d'avoir subi ce châtiment que nous méritions pour nos péchés. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert notre esprit lorsque nous avons entendu l'Évangile et que nous nous sommes vus tels que nous étions, perdus, Seigneur, sans toi, perdus, Seigneur, pour l'éternité. Merci de nous avoir montré cette croix, Seigneur, qui nous a offert, qui nous montre le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Merci pour ce sauveur bien-aimé que tu nous as donné. Et Seigneur, par ton esprit que tu nous as donné, par la parole qui est esprit vérité, Seigneur, que tu puisses parler à ton Église ce matin, que tu puisses parler à chaque personne ici présente ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, ressentir dans nos cœurs cette joie qui vient de toi, Seigneur, que les paroles soient dures à entendre, que les paroles soient bonnes à entendre, que les paroles soient difficiles à entendre, que nous puissions, Seigneur, reconnaître qu'elles viennent de toi et que, Seigneur, tout ce que tu veux, c'est notre bien, parce que tu nous aimes. Seigneur, tu nous as sortis de la boue, non pas pour nous détruire, mais tu nous as sortis de la boue pour nous laver, nous purifier et nous faire marcher en nouveauté de vie dans la personne de Jésus-Christ. Que ta parole soit bénie ce matin, Seigneur, qu'elle puisse nous toucher et qu'elle puisse nous remettre aussi en question et que le sujet de notre âme devienne quelque chose de la plus grande importance pour chacune de nos vies. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie, Seigneur. Amen. J'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir sur ce fabuleux trésor que représente votre âme. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une âme puisse avoir autant de valeur, frères et sœurs? Voulez-vous savoir ce que vous valez? Voulez-vous savoir pourquoi votre âme, elle seule, vaut plus que toutes les obligations, toutes les industries, tous les édifices, tout l'immobilier qui existe dans le monde, toutes les écoles qui existent dans le monde et le système de finances mis ensemble? Seriez-vous surpris si je vous disais que votre âme, elle seule, a plus de valeur que tous les rubis, les diamants et les pierres précieuses qui se trouvent enfouies dans le sous-sol de cette planète? Mais croiriez-vous si je vous dis que votre âme, elle seule, vaut plus que toutes les étoiles qui existent dans l'univers? Mon frère, ma sœur, ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, dit Jésus? Mon frère, ma sœur, ton âme n'a pas de prix. Et on va regarder ensemble ce matin, que vaut notre âme aux yeux du Seigneur? Quelle est la valeur de votre âme aux yeux du Seigneur? Et la croix, elle est là pour nous rappeler. La croix, elle est là pour nous rappeler la valeur de notre âme aux yeux du Seigneur. Permettez-moi de vous citer 5 choses qui font en sorte que votre âme est si précieuse qu'elle n'a pas de prix. Premièrement, à cause de celui qui est à l'origine de votre âme, c'est-à-dire de celui qui l'a créé. Qui l'a créé? C'est Dieu, le créateur de toutes choses. qui a ajouté une grande valeur à sa création, c'est l'âme humaine. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Je vais le lire pour vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, dans d'autres versions, une âme vivante. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage. Et j'ai déjà dit il y a quelques années que Dieu, la parole nous dit que lorsqu'elle décrit la création, que Dieu dit, et ceci apparut, Dieu dit, et cela apparut, ainsi de suite. Mais quand vous regardez le récit de la création concernant l'homme, il est écrit que Dieu prit, que Dieu façonna avec ses mains l'homme. Dieu a utilisé ses mains pour nous façonner, une marque d'affection extraordinaire. Dieu n'a pas dit que l'homme soit, Dieu a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance, nous dit la parole. C'est extraordinaire de se rappeler de ça. Frères et sœurs, Dieu vous a façonné. Il aurait pu dire, et voici l'homme, et ça se refait instantanément comme le soleil est apparu, comme les étoiles sont apparues, comme la lune est apparue. Mais Dieu a pris un soin jaloux de façonner l'homme. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est avec l'homme que Dieu a prévu de vivre une relation maintenant et pour l'éternité. Et en Jésus-Christ, il est venu nous montrer comment il nous affectionnait. Il est venu nous montrer comment il nous aimait. Jésus a pleuré sur la pauvreté des âmes à son époque. Jésus a pleuré en voyant que les gens ne se préoccupaient pas de la destinée de leur âme, qui est une destinée éternelle. Extraordinaire! Vous êtes le couronnement de tout ce que le Dieu Tout-Puissant a créé. C'est lourd, ça, c'est fort. Nous sommes le couronnement de tout ce que Dieu a créé, au-dessus des anges. Que vaut votre âme aux yeux de Dieu? C'est une chose. Mais quel prix accordez-vous à votre âme ce matin, frères et sœurs? Que vaut votre âme? Quels soins donnez-vous à votre âme au quotidien? Prenez-vous plus soin de votre corps de l'extérieur que de l'intérieur? De ce trésor qui Dieu a déposé dans votre cœur, à l'intérieur de vous? Un tableau de Picasso se vend des millions de dollars à cause de l'esprit de créativité de Picasso. Lorsque vous allez au Louvre voir le tableau de la Mona Lisa, il est possible que vous ne soyez pas trop impressionné par la Mona Lisa, qui a toujours le même sourire. Mais lorsque vous allez voir la toile en question, vous ne comprenez pas pourquoi elle a une valeur inestimable, pourquoi elle vaut tant. Mais c'est à cause de l'esprit de créativité de celui qui l'a peint. Il s'appelle Picasso. Chers amis, vous êtes l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes le couronnement du génie créateur de Dieu. Vous êtes le dernier chef-d'œuvre créé par celui qui a créé toutes choses. Nous sommes faits à son image, frères et sœurs. Vous n'êtes pas des minables, vous n'êtes pas des moins que rien, vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'avez pas à souffrir d'aucun complexe d'infériorité. Mais plutôt quotidiennement qu'il sorte des louanges de votre bouche pour louer la grandeur de Dieu qui a fait de vous le couronnement de sa création. Dieu ne nous doit rien, je le répète. Dieu n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour nous. Dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a décidé depuis toute éternité qu'on vivra ensemble avec lui. Il y a des conditions pour en arriver à vivre ensemble avec lui, mais ça, c'est une décision de Dieu. La grande décision, elle ne demeure pas du côté de Dieu, elle demeure de votre côté. Voulez-vous décider, avez-vous décidé, vous, de passer l'éternité avec Dieu? Ça, c'est une question importante. Dieu a fait sa part, il vous a créé, il nous a donné sa parole, et dans sa parole, il nous a dit quoi faire pour passer l'éternité avec lui. Maintenant, la décision, elle revient à l'homme. C'est à vous de prendre la décision. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. C'est à vous de prendre la décision. Vous voulez passer l'éternité avec Dieu dans le paradis qu'il a promis, ou vous voulez passer l'éternité séparé de Dieu dans l'enfer que Jésus a décrit? Rappelez-vous d'où vous venez. Vous avez été conçu par la main de Dieu. Voilà la première chose qui fait que votre âme a une si grande valeur. Permettez-moi de vous citer la deuxième chose qui fait en sorte que votre âme est si précieuse qu'elle n'a pas de prix. Nous avons parlé dans un premier temps de son origine, c'est-à-dire qui l'a créé. Nous allons maintenant parler, frères et sœurs, de son potentiel. Le potentiel qui se trouve dans votre âme. Frères et sœurs, une chose a beaucoup de valeur, non seulement à cause de ce qu'elle est, mais à cause de ce qu'elle peut devenir. Vous avez la possibilité un jour d'être rendu semblable à Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Un jour, en Jésus-Christ, Dieu vous donne la capacité de lui ressembler. Voilà le potentiel, la puissance qui se trouve en vous. Dites amen à ça ce matin. Oui. Est-ce que vous croyez à ça ce matin? Il n'y a non pas une, mais trois personnes qui sont assises sur cette chaise ce matin. Il y a une personne que vous êtes, la personne que vous risquez de rester si vous continuez à suivre la même direction, jusqu'à ce que finalement vous soyez envoyé en enfer, et la personne que vous pouvez être si vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, et que vous pouvez devenir si vous le laissez vous transformer à travers sa parole. Prenez, pensez au potentiel, frères et sœurs, qui se trouve dans une seule âme humaine. Frères et sœurs, si vous croyez qu'il faut attendre d'être au paradis pour ressembler à Jésus-Christ, je ne trouve pas ça nulle part dans la parole. Première épître de Jean, Jean dit que celui qui appartient au Seigneur Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Il nous dit pas, quand Dieu aura détruit le monde, la terre et tout ce qui s'y trouve, là on va ressembler à Jésus-Christ. Il nous dit, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, par son esprit, on a la capacité de lui ressembler. Le problème, c'est que si on prend tellement soin de notre corps qu'on oublie notre âme, on n'arrive pas à avancer, à progresser pour ressembler à lui. Et quand on chute, on l'a entendu ce matin à travers un témoignage, eh bien on s'avance, on confesse notre péché avec confiance et on repart. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous souvent qui nous abandonnons. Ce n'est pas nous qui refusons de marcher. Ce n'est pas lui qui refuse de marcher avec nous, c'est souvent nous qui refusons de marcher avec lui. On raconte que Michel-Ange, qui fut à son époque un grand sculpteur, dit un jour, en regardant un bloc de marbre, « Il y a un ange dans ce bloc, un beau grand bloc carré. » Et Michel-Ange, il regarde le bloc et dit, « Il y a un ange dans ce bloc et je vais le libérer. » Et à partir d'un bloc de marbre froid, il fera une magnifique statue. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous, pas une statue. Vous façonner pour vous rendre semblable à Jésus-Christ. C'est le potentiel qui se trouve dans votre âme. Et voilà pourquoi votre âme a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et j'espère qu'elle est précieuse à vos yeux aussi. Premièrement, elle a une grande valeur à cause de celui qui est à l'origine de votre âme, celui qui l'a créée, Dieu. Deuxièmement, elle a une grande valeur à cause du potentiel qui se trouve dans votre âme, vous amener à ressembler à Jésus-Christ. Dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir. Russell H. Conwell, un pasteur baptiste du 19e siècle, qui fut un serviteur de Dieu, qui servit dans l'église baptiste de Philadelphie et qui y fonda aussi un collège. Pour être en mesure de financer son projet de collège, il donna des centaines de conférences à travers différentes villes des États-Unis. Mais il y avait une conférence qu'il donnait qui attirait parmi tant d'autres, qui attirait des milliers de personnes et dont le titre était « Des kilomètres de diamants ». C'est l'histoire d'un homme, c'est un fait vécu. C'est l'histoire d'un homme qui vivait sur une ferme en Afrique et qui un jour apprend qu'on avait découvert qu'il y avait des diamants dans une certaine région en Afrique. Voulant posséder ces diamants parce qu'il voulait devenir riche, il vendit alors sa ferme et partit à la recherche de diamants. Mais il ne trouva jamais de diamants et il finit ses jours en sombrant dans une profonde dépression. Mais l'homme qui lui avait acheté sa ferme traversa un jour un ruisseau qui se trouve dans la propriété. Et en marchant dans le ruisseau, il voit une grosse pierre qui brillait au fond du ruisseau. Alors il se penche, il la ramasse pour se retrouver en tenant dans ses mains un énorme caillou, un gros diamant d'une valeur inestimable. Il découvre alors par la suite que le sous-sol sur lequel il marche, eh bien, il est rempli de diamants, d'où le titre des kilomètres de diamants. L'homme qui lui avait vendu la ferme avait marché sur des hectares de diamants pendant des années sans jamais réaliser ce qu'il possédait. Il n'a jamais développé, pardon, ce qu'il avait, parce qu'il regardait ailleurs en espérant trouver mieux. Mon frère, ma sœur, ton âme est en mode recherche. Sais-tu ce sur quoi tu es assis spirituellement? Tu es assis sur des hectares de diamants. Réalises-tu le potentiel? Réalises-tu la puissance qui se trouve en toi? Quand on vient au Seigneur, on est des diamants à l'état brut. Et le Seigneur, à travers sa parole, à travers les frères et sœurs en Christ, à travers notre vécu au quotidien, à chaque semaine quand on se rencontre, ce qu'il veut faire, c'est nous façonner à travers les épreuves, à travers les différentes situations, les difficultés, les moments de tension. Il veut nous façonner pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. C'est le potentiel qui se trouve dans notre âme. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas juste sauvés pour nous faire entrer au ciel, nous ouvrir les portes du ciel. Il nous a sauvés aussi pour qu'on puisse lui ressembler maintenant sur la terre. Parce que c'est à cela, frères et sœurs, qu'on attire, que les gens sont attirés à Jésus-Christ. C'est quand on lui ressemble. Amen. Voici une troisième chose qui fait en sorte que votre âme est précieuse au point qu'elle n'a pas de prix. C'est sa longévité. C'est français, longévité? Okay. Combien de temps votre âme va-t-elle durer? Combien de temps votre âme va-t-elle exister? Si vous possédez quelque chose qui est appelé à ne durer qu'un court laps de temps, il est évident que cette chose n'a pas autant de valeur ou n'aura pas autant de valeur que celle qui va durer longtemps. Et comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, votre âme est appelée à durer, à exister éternellement. Votre âme sera quelque part lorsque le ciel et la terre auront cessé d'exister, soit au ciel, soit en enfer. Vous ne cesserez jamais d'exister, comme Dieu lui-même ne cessera jamais d'exister, je le répète. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais il vient de prononcer le mot enfer à quelques reprises, c'est vrai. Oui, je l'ai bien dit. Jésus a dit plus de choses sur l'enfer que n'importe quel autre prédicateur dans toute la Bible. Et le pasteur Robert Greene Lee, ancien pasteur de l'église Bellevue aux États-Unis, qui est décédé, a dit ceci. Certains trouvent qu'il est cruel de parler de l'enfer. Je préfère plutôt qu'on dise de moi que je suis cruel, plutôt que l'on dise de moi que je suis gentil. Parce que la chose la plus cruelle que quelqu'un pourrait faire pour que les gens disent de lui qu'il est gentil, serait de ne pas les avertir que l'enfer existe et qu'il a été préparé pour ceux qui refusent d'accepter le seul moyen d'y échapper. Par amour pour nous, Jésus était crucifié. Par amour pour nous, Jésus nous a parlé de l'enfer. Le diable cherche à nous faire croire à ce monde que l'enfer n'existe pas. Mais si Jésus n'en a parlé, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut tout faire pour nous éviter d'y aller. Pas pour nous faire peur. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous faire peur. Il est venu sur la terre pour nous dire la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les gens font ce qu'ils veulent avec la vérité que Jésus a proclamée. Les gens peuvent croire que l'enfer n'existe pas, mais si Jésus a témoigné, a prêché sur ce sujet, en a parlé ouvertement à son époque, lui qui n'est point menteur, eh bien, on doit croire qu'il disait la vérité et que l'enfer existe. Le chapitre 16 de Luc nous parle d'un homme qui, dans le séjour des morts, qui souffre énormément et qui demande à quelqu'un qui est au ciel, qui attend que Jésus vienne le chercher, d'envoyer quelqu'un sur la terre pour avertir ses frères de ne jamais venir dans cet endroit parce qu'il souffre énormément. Et il n'est pas en enfer, il est dans le séjour des morts en attente du jugement dernier. Et Jésus, parce qu'il nous aime, l'enfer existe, le ciel existe. Je suis venu t'annoncer de quelle façon tu peux éviter d'aller en enfer. Et je suis venu t'annoncer de quelle façon tu peux entrer au ciel. Parce que Dieu veut que tous parviennent à la repentance et au salut. Et tout cela se passe en Jésus-Christ. Frères et sœurs, votre âme est appelée à durer éternellement. Et elle existera éternellement, soit dans le ciel, soit en enfer. Daniel a dit un jour... Pas Daniel Finet, mais Daniel dans chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'horreur, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Un jour, frères et sœurs, votre âme recevra la vie éternelle ou connaîtra la honte ou le mépris. Combien de temps dure l'éternité? L'éternité, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Avez-vous déjà pensé à l'éternité? Avez-vous déjà pensé que vous allez exister dans votre âme pour l'éternité? Chers amis, vous avez une âme qui existera éternellement. L'origine, ensuite de ça, sa longévité. Quatrième chose qui fait que votre âme est précieuse et qu'elle n'a pas de prix, c'est sa rareté. Sa rareté. Plus une chose est rare et plus sa valeur est grande. Votre âme est non seulement rare, mais elle est unique. Dieu vous a créé unique, frères et sœurs. Il n'y a personne depuis que le monde est monde et jusqu'à la fin du monde qui vous rassemblera. Vous êtes son image, vous êtes unique, donc absolument rare. Il n'y aura jamais deux copies de Jacques Hudon. Et heureusement pour ceux qui le contrôlent, pour ceux qui le fréquentent. Heureusement. Ouais. C'est extraordinaire, ça. D'où cette idée, vous n'êtes pas obligé de la partager, entre autres, il y a le pasteur E.W. Lodzer, qui est très, très bien connu aux États-Unis, qui croit que l'homme est composé de trois parties, trichotomique, voilà, trichotomiste, gros mot, je ne veux rien dire, hein. L'âme, le corps et l'esprit. L'âme, pour lui, c'est le siège de la personnalité. Le cœur, pour lui, c'est le siège des sentiments d'où émanent les émotions. L'esprit, c'est la partie que Dieu nous a donnée, qui est unique à l'homme, pour pouvoir entrer en communion, en contact, en relation avec Dieu, pour pouvoir le prier. Et le corps, eh bien, c'est l'enveloppe qui recouvre notre âme. À partir de l'âme qui est éternelle, il dit que notre personnalité, elle va nous suivre aussi pour l'éternité. Votre personnalité. C'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé, je vous dis, hein, je ne veux rien savoir de ce que le pasteur dit. Il amène ses passages, mais si on regarde la définition de l'âme, du corps et de l'esprit, ça tient. Hein. Sinon, on laisse sous-entendre qu'on va tous être pareils au ciel. Hein. C'est intéressant, mais vous êtes uniques, frères et sœurs. Vous avez une âme qui existera éternellement. Vous êtes son ouvrage, vous êtes unique, donc absolument rare. J'ai appris que le timbre le plus rare, c'est le timbre d'un centime qui est imprimé en Guyane anglaise. J'ai appris que la pièce de monnaie la plus rare, c'est l'Argenta Athénée. Une pièce d'un dollar. Le premier dollar fabriqué avec de l'argent. Ces deux pièces qui ont une valeur inestimable parce qu'elles sont très rares. Mais en ce qui vous concerne, frères et sœurs, vous êtes unique et vous pouvez être certain que Dieu ne fait jamais de copie. Vous savez pourquoi vous êtes tellement rare? C'est parce que vous êtes unique. Et qu'il n'y aura jamais personne qui sera pareil comme vous. Vous pouvez dire, quand on rencontre quelqu'un, en fonction de la façon qu'il parle, en fonction de la façon qu'il marche, en fonction de la façon qu'il se comporte, hey, lui, il ressemble à Jacques Hudon. Il peut me ressembler, mais il ne sera jamais Jacques Hudon. Je suis unique. Vous êtes unique. C'est important de comprendre ça. Sinon, si vous n'êtes pas unique dans votre tête, vous pouvez faire partie d'un groupe que Dieu peut aimer moins que d'autres. Vous êtes unique et Dieu vous aime tous de façon égale. Parce que vous êtes unique. Il ne vous aimera pas moins aujourd'hui qu'il vous aimait hier et il ne vous aimera pas plus demain qu'il vous aime aujourd'hui. Vous êtes unique à ses yeux. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot unique dans l'Esprit de Dieu est important. Vous êtes unique. Vous n'êtes pas des photocopies d'un qui est venu au monde il y a 300 ans ou 2000 ans avant vous. Vous êtes unique. Voilà pourquoi si vous étiez le seul pécheur à sauver sur la terre, le Fils unique serait venu sauver l'unique pécheur qu'il y a sur la terre. Vous êtes unique. C'est très important que vous saisissiez ce point. Ça vous évite de dire, tu pardonnes à un, mais tu ne pardonnes pas à moi. Tu préfères un, tu me préfères moins. Chaque cas est unique aux yeux de Dieu. Chaque péché, Dieu les entend seul à seul. C'est difficile à comprendre que Dieu puisse entendre tous les péchés du monde. Mais il les entend. Il a cette capacité que nous, on n'a pas. Surtout quand on vieillit. Puis qu'on commence à avoir besoin d'un appareil quand on nous parle. Dieu entend chacun des péchés qu'on lui confesse. Et on est unique à ses yeux. Gloire à Dieu pour cela, frères et sœurs. C'est la rareté qui fait qu'une chose est précieuse. Finalement, une dernière et cinquième chose qui fait qu'une chose est précieuse et qu'elle n'a pas de prix. Et je pense que c'est là le fond du problème. C'est le désir de posséder cette chose. Être désiré. Tout agent immobilier vous dira que s'il doit évaluer la parcelle d'une propriété, le temps que vous avez habité cette propriété importe peu. Les couches de peinture, le nombre de couches de peinture que vous avez déposées sur les murs et les plafonds importe peu. Le nombre d'années, je l'ai dit ça, hein, le nombre d'années, oui. Bon. Mais ce qui compte finalement, c'est plutôt le prix qu'il évaluera votre propriété, parce que c'est en fonction du prix que votre propriété a été évaluée que l'acheteur sera prêt à verser un montant d'argent pour cette propriété. N'est-ce pas ce qui va m'intéresser le plus, moi, de savoir à combien est évaluée cette propriété pour que je puisse offrir un prix sur cette propriété? Parce que c'est sur la base de cette évaluation que l'acheteur va accepter de payer, je le répète, de payer le prix demandé pour cette propriété. Frères et sœurs, vous voulez savoir quelle est la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Rendez-vous au mont Golgotha et fixez vos yeux sur cette croix. Et regardez Jésus versant son sang en train d'agoniser pour vous et moi. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as une valeur inestimable à mes yeux. Parce que tu es précieux à mes yeux. Parce que tu es une créature merveilleuse à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Et frères et sœurs, j'espère que vous avez la certitude ce matin que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime autant qu'il aime Jésus. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. C'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes péchés. Prenez un tableau, les anciens tableaux, avec la craie. Écrivez toute la liste des péchés que vous vous souvenez. Prenez la brosse que les professeurs utilisaient avant et effacez. Et vous voyez la poussière de la craie qui tombe sur le rebord ici. Essayez de recomposer à partir de la poussière qui est ici tous les péchés que vous aviez avant. C'est impossible. Dieu dit, j'efface tes péchés. C'est terminé. S'il y a quelqu'un qui essaye de vous rappeler vos péchés passés, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu dit, je les ai oubliés. Je ne les ramènerai jamais à la surface pour t'approcher quoi que ce soit, pour miner ton moral, pour te démolir. C'est terminé. Voilà la puissance, le miracle qui réside dans la confession des péchés. Amen. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 1, 3 à 5 et le verset 25. Frères et sœurs, venez coller votre oreille ce matin sur le cœur battant de Dieu et entendez-le vous dire, je t'aime. Et je veux que tu lèves tes yeux vers cette croix ce matin, afin que tu réalises quelle est la valeur que tu as à mes yeux. Quelle est la valeur que tu as à mes yeux pour que je sacrifie mon propre fils. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons, frères et sœurs. J'ai donné ma vie pour te sauver, dit Seigneur Jésus. Et Dieu dit, j'ai sacrifié mon propre fils afin que tu échappes au pire des châtiments. Et ce matin, toi qui es dans cette salle, je ne suis pas en train de parler d'une religion ce matin. Je suis en train de parler d'une relation. Et cette relation ne s'établit pas à travers des sacrements. Elle s'établit en reconnaissant que tu es un pécheur, en reconnaissant que tu es perdu dans tes péchés, qu'il n'y a aucune religion, aucun sacrement qui peut effacer un seul de tes péchés, que le seul qui peut effacer tes péchés, que la seule manière que tu puisses avoir tes péchés effacés, c'est à travers une personne, et c'est la personne de Jésus-Christ. Le salut, il est simple. Le pardon des péchés, il est simple. Si tu reconnais que le sacrifice de Jésus, que Jésus est le seul moyen par lequel tu peux être sauvé et recevoir le pardon de tes péchés, Dieu dit que tes péchés sont pardonnés. Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. C'est un nouveau commencement dans ta vie. Tu vas commencer à lire la Bible et tu vas commencer à la lire de façon différente. Parce que Dieu, par son esprit, vient habiter en toi. Et parce qu'il vient habiter en toi par son esprit va t'enseigner toute la vérité. Jamais l'erreur. Tu vas lire les Écritures et Dieu va te nourrir, ça sera ta nourriture. Tu seras affamé de lire les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu aura changé, bouleversé ta vie de l'intérieur. Et parce que tu réaliseras combien tu es redevable au Seigneur pour le sacrifice qu'il a offert sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Amen. Chers amis, frères et sœurs, pourquoi Jésus est-il mort sur cette croix? Parce qu'il veut votre âme ce matin. Et pour l'avoir, il a accepté de payer le prix exigé par la loi pour vous racheter. Imaginez jusqu'à quel point il désire que vous passiez l'éternité avec lui. J'ai dit que le dernier point, c'était le désir de posséder cette chose. Dieu a tout fait pour vous posséder. Dieu a tout fait pour que vous lui apparteniez. Désirez-vous lui appartenir? Ce matin. Baissez les têtes, on va prier. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas l'assurance que s'ils mouraient aujourd'hui, eh bien, que Dieu leur ouvrirait les portes du ciel pour qu'ils passent l'éternité avec eux. Ce matin, le sujet, ce n'est pas de raconter ce qui va se passer dans le paradis, ce qu'il va raconter ce qui va se passer au ciel. Mais une chose est certaine, Dieu nous prépare quelque chose de magnifique qu'aucun gouvernement dans le monde peut nous offrir ce matin. Et là où vous êtes ce matin, si vous n'avez pas l'assurance que vos péchés sont pardonnés, je vous offre cette possibilité en Jésus-Christ de le faire. Je ne vous demande pas de le faire publiquement. Là où vous êtes assis, simplement entrer dans une attitude de prière et dire, Seigneur, voici la prière que je vous invite à faire intérieurement. Seigneur Jésus, je viens de réaliser ce matin combien mon âme a dû prix à tes yeux, combien je suis une créature tellement précieuse pour toi que malgré ma condition de pécheur, malgré que je t'ai désobéi si souvent, malgré que même j'ai vécu longtemps sans toi, eh bien, Seigneur, tu as sacrifié ton propre fils sur cette croix. Il a subi le châtiment que je méritais pour mes péchés, afin que je reçoive le pardon de mes péchés et que je sois trouvé juste à tes yeux. Il a été traité en coupable alors que c'était moi le coupable. Lui, le juste, était traité en injuste pour un coupable comme moi. Seigneur, ce matin, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de reconnaître mon péché. Je veux me repentir sincèrement de tout le mal que j'ai fait depuis le début de ma vie jusqu'à maintenant. Pardon pour mes péchés. Merci, ô Jésus, de les avoir pris, portés sur la croix pour moi. Et merci en retour de m'accorder ton pardon. Merci aussi parce que, Seigneur, tu me donnes une espérance aussi qui est éternelle, celle de passer l'éternité dans ta présence, parce que tu es ressuscité, tu es vivant. Et, Seigneur, tu me dis aussi dans ta parole, qui est la vérité, qu'un jour tu me ramèneras aussi de la mort à la vie pour régner avec toi dans ce paradis merveilleux que tu es en train de préparer pour moi. Merci pour Jésus. Merci pour mon âme. Merci de l'avoir sauvé. Et fortifie-moi dans mon âme afin que je puisse grandir dans la connaissance de la personne de Jésus. Et c'est en son nom que je t'ai prié. Amen.